Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024. Vous écoutez
RMC. RMC, Rotten sans flamme. Un euro symbolique. L'Euro 2000.
19h03 sur RMC. Oui, vous êtes bien sûr à RMC. On refait l'Euro 2000, notre grande opération, les euros, avec Christophe Dugarry qui a participé et qui nous a donné de la joie, forcément, parce que c'est un euro incroyable. Peut-être le plus bel euro de l'histoire de l'équipe de France. On est avec Louisa Nessib aussi pour analyser tout ça et pour écouter attentivement ce que va nous dire Christophe Dugarry. On est avec Jean-Louis Tour aussi. Restez bien avec nous. On est là jusqu'à 20h. Il va tout nous expliquer. Tout ce qui s'est passé.
Et en plus,
fabuleux. Quelle équipe,
y a
quelle
famille, tout ce dont je me souviens.
Oui. Bon, ça va durer une demi-heure quand même. Hein. On va t'aider. Dans cette deuxième heure, attendez-vous plus d'engagement.
Une demi-heure. Hein.
D'accord, c'est fini. Ça. Attendez-vous plus d'engagement hors foot des joueurs de l'équipe de France. Vu la situation politique du pays depuis dimanche, doivent-ils davantage parler politique, appeler à faire barrage au Rassemblement National, par exemple, comme Zidane l'avait fait en 2002. Eh bien, vous entendrez que certains joueurs de l'équipe de France ont pas du tout ça en tête. Vous pourrez nous appeler au 32-16 pour monter sur le ring des supporters. Il y aura le quiz avec une enceinte à gagner. Vous envoyez top au 732-16. C'est tout à l'heure. Il y a l'expérience RMC aussi. Les places pour France-Pays-Bas, ça peut être pour vous parce que l'alerte n'est toujours pas tombée. Donc soyez bien attentifs. Dès que le cocorico tombe, vous aurez 5 minutes pour envoyer euro par SMS.
Et dans pas longtemps qu'on reste.
Et en plus, vous gagnerez donc le voyage à Leipzig, l'hôtel, la rencontre avec les équipes. Et donc les deux places pour France-Pays-Bas. Et puis il y aura la réponse de ce président de Ligue 1 qui aime pas trop Jérôme en ce moment. Ce sera tout à l'heure à 19h30.
Moi, c'est clair.
Et puis alors juste quand même, je vous donne les infos. Il y a entraînement de l'équipe de France en ce moment. Nos reporters Arthur Perrault, Fabrice Hawkins nous indiquent que Théo Hernandez était rentré au vestiaire alors que la séance poursuivait. Donc on n'a pas plus d'indications que ça. On sait qu'Olivier Giroud a pris un coup à la cheville. A priori pas grand chose. Que Griezmann a lui aussi pris un coup à la cheville et lui il discute avec les kinés. Petite alerte pour le français, même s'il continue la séance. Au moins vous avez les infos et on va surveiller ça.
Ils sont dedans, ils se mettent des pains, c'est bien.
Ouais, là ils s'en voient visiblement. Ouais. Ouais. Mais là tout de suite, on n'est pas en 2024, on est en l'an 2000.
Ah ouais.
Alors quand vous dites tout le monde croyait qu'on était mort, tout le monde, ça veut dire les joueurs aussi?
Je parle plutôt par rapport aux Italiens, ils étaient en train de nous chambrer, on entendait des olés.
Est-ce que vous vous attendiez à la difficulté de cette rencontre?
Ouais, on sait bien que les Italiens, ils commettent pas d'erreurs. Et puis à partir du moment, sur la moindre occasion, ils ont réussi à marquer, après ça devenait difficile.
Le quota.
Parlez bien Didier Deschamps.
Ah ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'était clair, c'était fluide Didier Deschamps. Qu'est-ce qui s'est passé depuis?
Il n'y a aucun bug, c'est incroyable. Ouais, je sais pas. On va donc vous raconter en détail cet Euro 2000. Ouais. Peut-être la compétition qui a donné le plus d'émotions dans les matchs. Il y a eu de l'émotion sur les premières victoires et tout, mais dans le contenu des matchs, il y a eu des trucs incroyables, des scénarios fous. Alors, on a mis I Will Survive parce qu'on est 2 ans après le titre de champion du monde. Et donc, cet Euro a lieu aux Pays-Bas et en Belgique. Et donc, Duga, je t'ai déjà entendu le dire, mais c'est le rôle plus abouti dans le jeu de cette génération?
J'ai l'impression, c'est les souvenirs que j'en ai. Alors après, peut-être que pour les autres, ce sera des souvenirs différents, mais j'ai l'impression que notre effectif est encore plus étoffé que ce qu'il était en 98. Plus de joueurs confirmés, je pense notamment à deux joueurs importants que sont Trezeguet et Henry, qui ont deux années de plus.
Et Nico Anelka, que je t'ajoute, qui est titulaire sur pas mal de matchs.
Exactement, Nicolas Anelka également, Patrick Vieira aussi au milieu de terrain. Enfin, beaucoup de joueurs arrivent un petit peu plus à maturité. Et puis je pense surtout entre ceux qui arrivent, qui sont très talentueux dans le groupe, et ceux qui sont déjà là, qui ont pris 2 ans de maturité, qui ont pris de la confiance aussi avec ce titre de champion du monde. C'est, alors je vais dire une banalité, mais c'est vrai que c'est il y a une véritable ambiance, il y a un groupe qui vit excessivement bien et qui n'a pas trop de difficultés justement à accueillir les nouveaux joueurs qui s'incorporent assez rapidement. Il y a 2 générations dans cette équipe avec les très jeunes, Trezeguet, Henry, et puis les un peu plus anciens avec Blanc, avec Deschamps et les autres. Donc il y a de la place un peu pour tout le monde dans cette équipe. Et c'est vrai qu'il y a Johan Mikou aussi, je me souviens. Oui. Il y a vraiment un effectif, un gros effectif avec des très très bons joueurs.
C'est ça, rencontre de génération. Avec Roger Lemaire à la tête des Bleus, puisqu'il va
prendre la suite.
Prend la suite, voilà, exactement. Et alors,
c'est
même
la,
si
c'est la surprise, ça a changé des choses, ça, dans la gestion, parce que est-ce que
Roger,
ouais.
Bah, Roger, c'est un personnage. Hein. Roger, il est particulier. Alors, tu peux penser que quand tu mets Roger, l'adjoint de Aimé Jacquet en 2000, tu vas faire du Aimé Jacquet. J'irai pas jusque là. Il a sa personnalité, il a sa façon de voir les choses, il a son caractère. Oui, c'est quelqu'un d'assez impulsif. Hein. C'est un militaire de base, donc il est un peu vindicatif. Il est parfois un peu spirituel aussi. Il analyse des choses un peu à sa manière aussi. Parfois, il est un peu aussi dans ses nuages. Roger, on comprend pas toujours où est-ce qu'il veut en venir dans ses discussions de match. Voilà, mais il y a un groupe quand même assez établi, il y a une hiérarchie assez établie, il y a des relais assez importants, je pense à Laurent Blanc, je pense à Deschamps, je pense à Desailly, je pense à Zizou, je pense
mais
à
est-ce qu'il est responsable du fait que vous jouez mieux Roger Lemaire ou c'est vraiment vous qui avez pris le lead, quoi, tu vois, par rapport à 98, parce que franchement il y a quand même une grande différence en termes de jeu et je le dis, hein.
Oui, bah je pense qu'il y a plus d'armes offensives. Donc c'est plus facile pour Roger de faire appel à ses armes offensives. Il y a un panel de joueurs différents, voilà, que l'on n'a pas forcément en 98. Voilà, le point fort c'est le milieu de terrain et la défense en 98 et en 2000, on commence à être offensivement assez intéressant. On sait qu'on va marquer des buts, on sait qu'on est capable de créer du jeu spectaculaire. Oui.
Alors pourtant, vous galérez avant la compétition. Vous galérez pour vous qualifier. Il y a ce fameux match face à Andorre où il y a 0-0 pendant longtemps et il faut un pénalty de Franck Leboeuf pour gagner. Et
du gars expulsé.
Du gars expulsé contre Andorre, voilà. C'est arrivé rarement, mais voilà.
T'as pas dû dormir de la nuit, t'étais nerveux, voilà.
Et il y a ce fameux dénouement où en fait vous gagnez contre l'Islande et par miracle, dans le groupe, il y a nul entre l'Ukraine et la Russie et hop, qualifié à la première place. Donc ça a pas été simple. C'est dans cette période où il y a aussi cette fameuse victoire en Angleterre où on n'avait jamais gagné
avec Anelka,
avec le doublé de Nicolas Anelka.
Deux buts d'Anelka, oui, effectivement.
Et donc arrive cette phase de groupe avec donc le Danemark, la République Tchèque et les Pays-Bas.
Qui sont de très très bonnes équipes.
Ah ouais, exactement. De toute façon, là, tout le parcours, c'est que des bonnes équipes.
Exactement.
Et donc, ce que tu disais tout à l'heure, il y a la base de 98, Barthez, Thuram, Blanc, Desailly, Lizarazu, Deschamps, ça va pas bouger, Djorkaeff, Zidane. S'ajoute Henri Anelka devant, Manu Petit aussi au milieu. Et puis donc, victoire contre le Danemark 3-0, contre la République Tchèque 2-1, et France-Pays-Bas, défaite 3-2 sur ce match. Tu gardes quoi comme souvenir de cette phase de poule?
Des matchs accrochés, très accrochés, mais une équipe de France solide. Patrick Vieira en pleine forme, Zizou, Djorkaeff, enfin voilà, tout le monde est à son maximum. Moi, j'ai souvenir que c'est vraiment des gros matchs. Ce troisième match, on le perd parce que Roger fait totalement tourner l'équipe. Sachant que à l'époque, cette compétition se joue en Belgique et aux Pays-Bas, donc on joue au stade de l'Ajax. Je me souviens plus le nom de c'est un match qui on n'est pas obligé de le gagner. Mais même sur ces matchs un peu de match de coiffeur, on montre qu'on a un effectif large et de qualité, parce que faire 3-2 à domicile face aux Pays-Bas, c'était loin d'être évident. En plus, peut-être qu'on mérite de gagner ce match. Donc mais on sent qu'on est solide, quoi. On n'est pas sur la défensive, on peut prendre des buts, mais on est serein, on sait qu'on peut en marquer. On a vraiment étoffé notre jeu, ça c'est certain.
Louisa, tu voulais dire un mot?
Non, je disais juste que sur ce troisième match, ils étaient qualifiés à la fin des deux premiers, quoi. Donc du coup, il y a eu un turnover sur le troisième.
Oui, exactement, exactement.
Exactement.
Et puis alors moi, je me souviens qu'à l'époque, on disait ça, mais Duga, tu nous l'as déjà contredit, mais qu'on était mieux dans une partie de tableau et que si on perdait, c'était pas si grave non plus. Ça nous évitait d'être du côté, je sais plus qui, de l'Italie,
ouais, à l'Italie
en finale.
C'est ça.
Mais que c'était un peu plus dégagé. Mais bon, le match, vous l'avez fait quand même à 100%.
Bien sûr. Bah, nous, en plus, on joue notre place.
Hein, c'est ça, oui.
Et puis là, il y a une espèce d'effervescence qui se crée. Quand tu vois les deux premiers matchs qui sont arrachés, qui sont à l'arraché, il faut se battre. Et puis voilà, et puis t'as envie de montrer, quoi. T'es pas là. Même
c'est quoi ta place, toi, Duga?
Dans le couloir, moi je joue couloir gauche.
Ouais.
Ouais, je joue couloir gauche. Alors, milieu, ailier,
côté gauche. Ouais.
Voilà.
Bah, c'est ça. Et bah, d'ailleurs, t'as été tellement bon sur ce troisième match que t'es titulaire contre l'Espagne au match d'après. Et bah, là, déjà, on commence les matchs à émotion, puisque donc, vous gagnez 2-1, but de Zidane et de Djorkaeff. Il y a pénalty raté de Raoul. Et les souvenirs que j'ai, moi, c'est Thuram qui prend le bouillon, une des rares fois à cette époque-là où Thuram était autant mis en difficulté.
Oui, il y avait un petit là qui s'appelait Mounitis, exactement.
Ah oui. Petit
gaucher. On souffre beaucoup. Cette équipe d'Espagne est redoutable. Sincèrement, on s'en sort très très bien. On mérite certainement pas de gagner ce match. Mais une nouvelle fois, malgré tout, c'est des matchs enlevés, c'est des matchs de haut niveau, c'est des matchs avec des grands joueurs partout. C'est je crois Youri Djorkaeff qui marque un but, un but exceptionnel sous la barre avec une frappe de 25 mètres. Le ballon au moment où il va frapper, tu vois le ballon juste qui rebondit, ce qui permet la prendre.
Un peu à la Djorkaeff ce but d'ailleurs.
Coup du pied, oui.
Il aimait bien ces frappes-là.
Ouais, c'est ça.
Donc là, on passe en demi.
Et là, je me fais casser le nez, ouais, sur ce match-là. Un coup de coude avec un défenseur du Barça, je me souviens plus son nom.
Ah.
Ouais, je me fais péter le
un
nez.
Un ancien partenaire que t'as retrouvé?
Tu te fais opérer pas déplacé?
Non, juste le nez dévié.
Et
le
quoi,
nez
c'est une maladresse ou il y a eu un peu de...
Non, sur un coup de coude, sur un ballon en l'air, un ballon aérien, voilà, je prends un coup.
Mais c'était
coude,
pas volontaire, je veux dire, c'est...
Bah, tu sais jamais, hein.
Non, c'est jamais. Ouais, donc voilà, tu crois que c'était
un duel aérien.
Voilà, donc je finis le match, malgré tout. Voilà, et après le match d'après, je crois que c'est...
La demi-finale. Contre le Portugal.
Face au Portugal.
Et là, t'es pas là, effectivement. Tu te remets le nez, visiblement.
Oui, exactement.
Cette demi-finale, on en parle dans une seconde. Là aussi, scénario incroyable. Et puis, on va quand même parler de cette finale. Cette émotion de fou. Allez, à tout de suite.
Grand Mendes.
La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici, au kiosque à pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de trois pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique!
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique! Voir conditions et règlements du jeu sur lekioskapizza.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
RMC, Rotten sans flamme. Un euro symbolique. L'Euro 2000.
19h17 sur RMC. Oui, vous êtes bien sûr RMC. On refait à l'Euro 2000 avec Christophe Dugarry, avec Louise Anessib et avec Jean-Louis Tour. Vous, les auditeurs, vous allez appeler dans un instant aussi pour participer à ce débat et au souvenir de Christophe Dugarry. On est là, on est bien encore. Oui, une bonne demi-heure d'émission. Donc on a le temps de tout raconter.
On est à la demi-finale de cet Euro 2000. France-Portugal. Et là encore, donc scénario incroyable, puisque bah, ce sont les Portugais qui ouvrent le score. Nuno Gomes qui marque. Égalisation de Thierry Henry, qui jouait devant avec Anelka, donc.
Et Portugais, ils ont une sacrée équipe aussi. Hein.
Ah oui, oui. Grosse équipe avec Rui Costa, Figo. Là, c'est du lourd. Et donc, on attend la 117e minute à Bruxelles pour donc voir cette main d'Abel Xavier.
Ouais.
Qui a fait une polémique terrible pendant des mois et des mois au Portugal. Bah, je pense qu'il y a main.
Oui, il y a main. Non, mais eux, ils te disent que non.
Il y a main, mais ils disent qu'elle n'est pas volontaire parce qu'il est en train de tomber à moitié. Bon, voilà. Il y a pénalty.
Oui, mais il élargit sa surface de corps. C'est-à-dire, s'il n'a pas les mains là, le but, il rentre parce qu'il est sur la ligne.
Exactement. Donc, dans la trajectoire du tir de.
Voilà, il aurait été ailleurs. Je me dis, bon, allez, pourquoi pas. Mais là, à partir du moment où il est sur sa ligne et qu'il élargit sa surface de corps, bon, il n'y a pas de sujet.
Et là, le patron arrive pour tirer le pénalty. Alors, à cette époque-là, donc, il y a donc cette fameuse règle du but en or. Si vous êtes jeune, vous peut-être vous connaissez pas.
Bah, génial. C'était
un but en prolongation et c'est terminé.
Ah, c'est dingue.
L'équipe qui marque a gagné. Donc. Ça a été notre truc, ça. Ça a duré que quelques années, mais nous, la France, c'était notre truc.
Oui, oui, on en a profité. Ouais.
Donc là, Zidane marque le penalty et donc nous envoie en finale face à l'Italie. Qu'on a déjà sorti.
Attends. Quand il marque, Zidane, il va vers qui, du gars?
Il va vers qui? Je me souviens plus.
La main levée.
Il va. Je me souviens de sa main levée, effectivement.
Oui, moi aussi, mais
main gauche levée, mais je sais pas.
Non, tu sais plus.
Non, je ne me rappelle plus.
Ah, je pensais pourquoi qu'il venait vers toi, en fait.
C'est possible, je ne me souviens plus.
Ah,
je ne me souviens plus. Je sais qu'à la Coupe du Monde, en finale, oui, mais quand il marque de la tête. Mais là, je me souviens plus. C'est possible.
Il allait voir Candela, je crois, en demi.
C'est possible aussi.
Mais
souvenons-nous quand même de ce match de Zizou. C'est un des matchs références en équipe de France de Zizou, où c'est un balai. Il fait un balai tout au long du match. Il est aérien, il est artistique, tout ce qu'il réussit, tout ce qu'il fait, il est gigantesque sur ce match. Les Portugais sont effondrés, sont dégoûtés. C'est du grand, très grand Zidane qui font partie. Je suis persuadé que ça fait partie, si on lui posait la question,
de ses meilleurs matchs,
de ses cinq plus grands matchs en équipe de France. Ouais.
Je lui posais la question quand je le verrai.
Ouais, tu lui demanderas, bien sûr. Alors, la finale contre l'Italie, donc notre adversaire un peu particulier, parce qu'il y a beaucoup de joueurs français qui sont en Italie ou qui sont passés en Italie à un moment. On avait déjà eu ces réflexions 2 ans avant pour le quart de finale de la Coupe du Monde. Donc là, ils nous connaissent par cœur et ils nous posent beaucoup de problèmes.
Leur reste en travers. Moi, Jean-Louis, rappelons-nous qu'en quart de finale, en Coupe du Monde en France, ils perdent au pénalty sur un pénalty raté. Donc
exactement.
On se qualifie comme ça.
Et donc, ils ouvrent le score. Et pour le coup, autant on a dit beaucoup de bien de cette équipe de France dans le jeu, mais sur cette finale, on a beaucoup de mal.
Pas bon. Match fermé, les Italiens mettent beaucoup d'agressivité. Moi, je me souviens, j'ai encore le nez un petit peu fragile et je reprends un ballon en pleine tronche. Là, c'est Cannavaro là, qui m'allume. Je vais pour contrer un ballon et je suis à 1 mètre de lui. Il m'envoie le ballon en pleine tronche. Ah, bon, enfin, voilà. Et tu vois que le match, il va se jouer dans la tête, dans les yeux, dans la provocation. Après tous les matchs avec les face à l'Italie, on est des frères ennemis, donc on se connaît tellement bien. Voilà, c'est la même chose en 2006. Souviens-toi, il y a toujours des scénarios rocambolesques. Ça se passe toujours comme ça avec les Italiens et c'est rarement des très grands matchs aussi.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est le scénario est
alors,
fou. Quoi,
en face d'Italie, c'est avec tu l'as dit, Cannavaro, mais aussi Nesta, Maldini, Albertini, Totti, Del Piero est même remplaçant, Del Vecchio qui marque, donc Toldo dans les buts qui paraît infranchissable sur ce match.
Exactement.
On a du mal à avoir des occasions. Changement tactique de Roger Lemaire qui va avoir son importance puisqu'il sort Vicente Lizarazu, l'arrière gauche, pour mettre Robert Pires. Donc là, c'est quand même hyper offensif. Plus donc Trezeguet à la place de Djorkaeff et toi tu sors pour Wiltord.
Ben c'est ça, pour Sylvain.
Et donc là, on retrouve tous les protagonistes, les trois, de cette action décisive. Donc, dernière seconde, vraiment des arrêts de jeu.
Oh, c'est incroyable.
Coup de génie de Roger, ouais, effectivement. Alors, les Italiens, un peu suffisants, certainement, on les voit. Alors, moi, je suis sur le banc de touche à ce moment-là et on les voit commencer à se préparer.
Célébrer,
tous debout, les cheveux, à commencer à se gobiner un peu les cheveux, mettre un peu dans les cheveux pour être beau sur la photo. Donc,
tu penses que c'est mort, toi?
Oui. Oui, on sent qu'il y a une espèce d'effervescence, les Italiens qui chantent, qui se préparent, on sent qu'ils se préparent à recevoir la coupe.
Mais oui.
Et c'est vrai qu'il y a une espèce de sprint, de dribble chaloupé de Robert Pires qui envoie David Trezeguet marquer ce but et qui s'arrache. Oui, c'est un scénario fou.
C'est ça. L'égalisation donc de Wiltord, 94e.
Ouais.
Mais là aussi, c'est une espèce de frappe.
Dégagement de Moisy,
dégagement de Barthez, je crois, déviation de Trezeguet.
Ouais, c'est ça, il y a une déviation.
Le ballon rebondit, on ne sait pas comment il arrive là où il tord, effectivement.
C'est Toldo.
Toldo, à l'époque, qui est un très grand gardien, qui doit faire presque 1m95.
Ouais, il apprend sous le bras, là, je sais pas.
Il doit mettre le pied.
Ouais.
Un peu du mal à se baisser, tellement il est grand, ou du moins pas assez vite, et sur une frappe un peu pourrie qui permet d'égaliser. Mais déjà, cette frappe, elle sort de nulle part. Alors, Sylvain avait l'habitude, comme ça, de marquer des buts un peu en renard de surface. C'est un redoutable attaquant, hein, Sylvain Wiltord. Il a mis énormément de buts dans sa carrière. Donc, Toldo.
Jean-Louis, le grand gardien qu'il est, il vient de te dire. Hein,
ah, moi, c'est ce que j'ai entendu à l'époque.
Il veut mettre le pied.
Non, il veut mettre la main.
Il veut mettre la main au lieu de mettre le pied.
Alors, s'il met le pied, c'est réglé. Et on n'est pas champion d'Europe parce qu'on va finir champion d'Europe.
Merci pour cette analyse.
Puisque donc, il y a le débordement de Pirès.
Là, je suis.
Ah non, mais tu reverras le but.
Ah non, non, mais je te crois. Bah, attends, moi.
Débordement.
Quand tu parles de gardien.
Non, hier, tu m'as dit que tu étais meilleur que moi au but. J'ai été très vexé quand même. Là, j'avoue, je l'ai très mal pris quand même. Mais bon. Bref. Ensuite, l'accélération de Pirès, le but de Trezeguet donc. Et là, Thierry Henry qui fonce vers les Italiens pour leur dire rasseyez-vous, rasseyez-vous. Ah ouais, parce que là, incroyable. C'est fini. Ouais. Et donc, là, c'est le but en or encore. Donc là, on sait qu'on est champion d'Europe sur ce but de
Trezeguet. Qu'est-ce que c'est bon ce but en or là quand tu le vis comme ça. On l'a vécu quoi, trois fois avec l'équipe de France. Il y a eu Laurent Blanc en face
au Paraguay. Ouais. 8e de Coupe du Monde.
Et ensuite
le Portugal donc la demi de
Portugal,
de l'Euro
exactement et là et à chaque fois ça nous a été favorable et c'est fou les en termes d'émotion c'est un truc incroyable.
Ah ouais c'est sûr, c'est
ouais, sûr. Bah, quand tu l'as du bon côté ça va mais imagine à la place des équipes qui subissent ça
et pensez aux supporters pendant la prolongation c'était terrible à vivre
parce que dès qu'il y avait une action tu te disais ça y est c'est fini non incroyable
et puis alors à la fin il y a cette image marquante qui a marqué la France entière à ce moment-là, la discussion entre Roger Lemaire et Didier Deschamps pour essayer de le convaincre de rester en équipe de France.
Roger, c'est toujours de comprendre ce que voulait dire Didier, il a toujours pas compris.
C'est ça.
Même le traducteur n'a pas réussi.
Je comprends pas.
Plus faible, plus fort, plus faible. Mouvement. On n'a pas été en mouvement.
Non, il essayait de le convaincre de rester, mais
vous êtes
décidé d'arrêter.
Vous étiez au courant de ça, Duga, que des gens allaient arrêter ou
non, pas du tout. Non, on n'était pas au courant. Bah, c'était entre eux, ça. J'imagine que c'était entre eux. Non, bah après.
Alors cet euro-là,
c'est la vie. Il n'y a pas que lui. Je crois qu'il y a Laurent Blanc aussi qui arrête après ça.
Oui, alors Deschamps a très mal vécu cet Euro 2000. Hein. Il ne parle plus à la presse, il se fait critiquer. Ouais. Il y a l'émergence de Patrick Vieira. Et en gros, on se demande s'il ne faut pas mettre Deschamps sur le banc.
C'est compliqué. Les années passent et c'est de plus en plus compliqué pour Dédé. Et puis à côté de lui, il a des joueurs monstrueux.
Bah oui, c'est ça.
Il y a Patrick Vieira et Manu Petit qui sont juste monstrueux à cette époque-là. Et tu vois une différence. Alors Deschamps est le métronome et le capitaine. Et la tête pensante de ce milieu de terrain, mais Deschamps à la tête et les autres, ils ont et la tête et des cannes et des courses et de l'agressivité et ils attaquent et ils défendent et ils savent tout faire. Donc, tu te retrouves. Je trouve que à cette époque-là, ça reflète assez bien un espèce un nouveau milieu de terrain qui est en train d'exister et de se mettre en place. Des milieux de terrain qui sont capables de défendre et d'attaquer des box-to-box, ce que Deschamps ne faisait pas, ne savait pas faire. C'était plus une sentinelle.
Plus de courses, un peu moins technique que Didier, mais plus de courses, quoi.
c'est ça à peu près. Mais,
D'ailleurs, alors, on a assez peu cité Manu Petit sur cet euro parce qu'il est malade. Il nous l'a raconté déjà.
Autant ça a été l'homme de 98, autant.
Une shot piece, il avait.
Très bien, merci. Bon, voilà pour l'Euro 2000.
La question. La question, oui, parce qu'après, bon, il y a le fiasco 2002.
Tu as arrêté derrière.
Quand tu gagnes tout comme ça, tu t'es pas posé la question de te dire, tiens, écoute, on finit là-haut, j'arrête les Bleus, moi j'ai tout connu. Sachant qu'il y a des jeunes derrière qui poussent, donc tu sais que...
Non, pas à ce moment-là, parce que c'est tellement beau, c'est tellement bien que t'as envie que ça continue. Après, par contre, après 2002, moi c'est après 2002 que j'arrête, et là je sens que je suis à côté de la plaque et que j'ai moins envie, que j'ai du mal à me remotiver, que j'ai du mal à trouver de... Oui, c'est compliqué, mais t'arrêter comme ça au sommet, j'ai pas l'âge d'arrêter. En 2000,
T'as 28 ans.
J'ai 28 ans.
Non,
tu continues.
Non, t'arrêtes pas.
T'as envie que ça continue, même si la génération ça pousse derrière. Attention, hein. Mais il y a aussi la génération qui est là, qui peut se renouveler, Il y a des mecs qui arrêtent, mais il y a des mecs qui peuvent prendre le relais. Je veux dire, quand tu vois, tu te dis Deschamps et Laurent Blanc arrêtent, aussi fort soit-il.
Ouais, t'as vu les mecs derrière, quoi.
Tu vois les mecs qui arrivent derrière, c'est quand même, ça donne envie aussi de jouer avec.
C'est vrai.
Et ben voilà, c'était passionnant, cet Euro 2000, grâce à Duga.
C'était super. C'est peut-être une des plus belles compétitions que l'équipe de France ait réalisée, et peut-être une des meilleures équipes aussi qu'ait eu l'équipe de France aussi à cette période.
En termes d'émotion en plus, je te confirme, parce que nous...
En termes d'effectif, est-ce que c'est effectif par rapport à toutes les sélections qu'il y a eu avant et après?
C'est vrai que c'est très fort. En termes d'émotion, il y aura peut-être match avec l'Euro dont on parlera demain, l'Euro 84. En France.
Ah oui.
Remporté par Michel Platini et le carré magique. Luis Fernandez sera avec nous pour en parler.
Ou peut-être l'Euro 2004 de vendredi.
Ouais, parce que franchement. Alors ça, on en parlera vendredi,
Ouais. Oh, non, mal aussi, Jérôme.
J'aimerais bien que tu le mettes un peu plus haut.
Non, bah, quand même, ton entrée.
Que tu le respectes un peu plus.
On en parlera, ton entrée contre la Grèce.
Non, mais bon.
Tu aurais dû normalement faire tourner le match.
On s'appellera après l'émission, on en parlera.
Malheureusement, non. On n'a pas fait tourner le match. Pourtant, t'as fait une bonne entrée. Hein.
C'est joliment dit.
Franchement, vu les mots, mais je vous raconterai vendredi, vu les mots de Jacques Santini quand je suis avant de rentrer, je me suis dit, putain, je suis sur le toit de l'Europe.
Bon, on en parlera vendredi. Et puis un jour, Louisa, tu nous raconteras tes JO 2012.
Avec plaisir.
Ouais, oui, quand même. Quatrième place. Non, troisième. Non, quatrième. Pas de médaille, malheureusement.
Ouais. Ouais.
On en parlera, Jérôme.
Oui, dans le podcast.
Non, je t'ai allé dans une seconde.
C'est gentil.
Non, Louisa, je plaisante, bien sûr.
Attendez-vous plus d'engagement des joueurs de l'équipe de France sur la politique. Vous entendrez aussi le règlement de compte d'un président de club de Ligue 1 avec Jérôme. Et il y a toujours pas une alerte aussi, hein, le cocorico pour France Pays-Bas. Bah,
ça arrive, habitude. Restez avec nous, soyez patients.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h34 sur RMC, la dernière demi-heure de Roten sans flamme avec Louisa Nessiba et Christophe Dugarry et avec Jean-Louis Tour. On continue nos débats avec un bon ring des supporters là dans un instant. Et puis le quiz de Julien Cazard pour clore cette émission fantastique de ce mercredi soir. On se régale, on est à deux jours de l'euro. Deux jours
de l'euro, oui.
Ah, ça fait pleurer le fils de Dugas, tiens.
Ah oui, écoute.
C'est pas le fils de Dugas là, c'est Cocorico.
C'est parti Cocorico, vous avez 5 minutes pour envoyer Euro, E-U-R-O, par SMS au 732-16. Si vous êtes tiré au sort après avoir fait ça, vous gagnerez peut-être vos deux places pour France-Pays-Bas. Le 21 juin à Leipzig, on vous fournit en plus le voyage,
c'est le plus beau match, hein.
La nuit d'hôtel, la rencontre avec les équipes RMC sur place. Allez-y, Euro par SMS au 732-16. Juste avant de débattre autour de l'engagement des footballeurs, on va écouter donc celui qui veut régler ses comptes avec toi, Jérôme.
Mais non.
C'est Olivier Létang, le président de Lille. Donc tu l'avais mis en cause en disant que c'était aberrant qu'il porte la flamme lorsqu'elle est de passage dans le Nord, la flamme aberrant. Olympique, alors qu'il a refusé, officiellement,
de la porter.
Non, refusé officiellement que ses joueurs soient libérés pour faire le tournoi de foot.
Même pas
Yoro,
un joueur, non.
Yoro, Diakité, Chevalier ne sont pas dans la liste.
Les trois.
Non. Thierry Henry a appelé d'ailleurs hier certains joueurs pour compenser. Mais donc Olivier Létang est droit dans ses bottes. Il ne voit pas le problème.
En fait, ce sujet, finalement, il y a une polémique qui a été créée par une personne que je ne vais pas citer. Cette personne, jamais on avait libéré les joueurs, le 15 août, si on se fait éliminer lors du Q3, c'est la même personne qui aurait dit, mais regardez, ils n'ont aucune ambition, ils ont libéré leurs joueurs. Ça n'est pas que nous ne voulons pas, c'est qu'on ne peut pas. Nous sommes le seul club, en fait, à jouer en même temps que les JO. Voilà, on a deux matchs qui sont deux matchs importants. Tous les matchs sont importants. J'ai dit tout à l'heure, on veut toujours gagner. Quel message vous envoyez si vous dites aux autres joueurs, si vous dites à votre coach, si vous dites à tous vos supporters, ben finalement, non, mais on accepte de libérer des joueurs parce que le club est moins important. Et je tiens à préciser que si on avait fini troisième, j'avais pris l'engagement de libérer les joueurs pour qu'ils puissent participer à cette compétition.
Oui, voilà, Jérôme.
Ouais. Bah déjà, il parle à ma place. Donc,
il parle de toi en tout cas. Et donc tu aurais critiqué.
Non, déjà, il peut me parler de moi et me critiquer. Il n'y a pas de problème sur ce que j'ai dit. Mais qu'il ne parle pas à ma place. Dire, il est qui, lui, pour savoir si j'aurais critiqué, s'il avait libéré les joueurs et qu'ils sont sortis.
Surtout toi, tu ne sais même pas ce que tu penses à la base.
Mais en plus, t'imagines, il sait mieux que moi. Alors que, comme tu le dis, voilà, ça peut changer de la veille. De la minute à l'autre, ça peut changer, ça peut évoluer. Mais ce qui est sûr, c'est que. Encore une fois, monsieur Létang, vous n'êtes pas droit dans vos bottes.
Il n'a pas répondu sur le fait de porter la flamme.
Je suis désolé, mais porter la flamme quand tu craches sur les JO comme ça, c'est un manque de respect à la France, tout simplement, au sport en France, mais à la France principalement. Et donc, pour moi, ce mec-là, ce monsieur-là, ne mérite pas de porter la flamme olympique. Il aurait pu la laisser, la flamme olympique, et. Encore une fois, il aurait pu faire aussi un geste. Parce que trois joueurs, je peux comprendre que
ça fasse beaucoup.
Et tout, mais fais un geste. Libère-en un.
Moi, je peux comprendre. Je comprends les temps. Son explication, je la comprends. Mais je peux aussi comprendre Jérôme quand il trouve qu'il y a un décalage entre le fait qu'il porte la flamme et le fait qu'il ne veuille pas libérer pour les Jeux Olympiques.
Oui.
Voilà, je trouve c'est que les deux positions.
Ça s'entend, bien sûr.
Voilà, se respecte. Chacun est là pour faire son boulot, déjà pour faire son métier.
Et oui, moi, je viens pas faire le malin. Viens pas faire
voilà,
le malin.
L'argument de Jérôme.
La
voilà, tu défends ton club, tu machin, je l'entends, okay. Mais je comprends aussi Jérôme. Donc s'attaquer à Jérôme sur ce cas-là, j'aurais préféré plutôt que de dire que Jérôme d'ici aurait dit ça, qui m'explique ce
Ce volte-face.
La flamme. Voilà. Ouais, un peu.
Ben oui, parce que à la fois, quand tu portes la flamme, moi j'imagine que c'est une fierté, il n'y a pas de souci de porter la flamme. Mais ça veut dire que t'es pour le sport olympique, t'es pour la représentation en France de sport et de tous les sports.
Mais je pense pas qu'il soit contre les sports olympiques. C'est juste que il est dans une position où il pense d'abord à son club avant de penser à la sélection nationale.
Avant de penser au pays.
Comme il a dit, s'il n'avait pas ce tour préliminaire de Ligue des Champions, il aurait certainement.
Ah mais ça on n'en sait rien, Louisa.
Et toi t'es pas gêné, Louisa, sur le fait que voilà, il prend cette décision là, mais derrière il va porter la flamme olympique. Tu vois pas le décalage, toi.
Si je peux le comprendre, que du fait qu'il refuse de libérer ses joueurs, alors qu'il refuse de porter la flamme olympique, mais là encore une fois, il voit aussi son intérêt et son côté émotionnel personnel. Mais moi, si je suis président de Lille, je libérerai pas non plus mes joueurs, par contre.
Je ferais pareil. Bon,
non mais
après, Olivier Létang est le bienvenu. Oui,
voilà, Olivier Létang est bienvenu pour venir s'expliquer. Il l'a déjà fait, hein, mais toujours pareil sans te nommer, en disant ça n'a rien à voir. On peut aimer les JO, aimer ce que représentent les JO, avoir envie de porter la flamme, mais défendre aussi les intérêts.
Jean-Louis,
c'est sa position. On peut les deux. Oui, mais quand même, j'aimerais l'explication.
On l'a lancé. L'invitation, on a voulu qu'il vienne dans l'émission, tout le monde est bienvenu, surtout quand tu es cité dans l'émission, critique ou pas, tu peux venir dialoguer, il n'y a pas de souci. Dire moi je dis juste qu'il veut pas venir, donc il est pas courageux, c'est comme ça, et il y en a, c'est pas le seul, il a la flamme du courage, je pense qu'il l'aurait pas porté dans tous les cas. Et puis moi je souhaite bon courage à mon pote Bruno Genesio qui vient de signer à Lille.
C'est son pote maintenant, Bruno Genesio.
Oui, qui vient de signer à Lille, parce que apparemment tous ceux qui ont travaillé avec Olivier Létang, ça s'est mal passé, ça s'est mal fini, ça s'est mal passé.
Fonseca, donc... c'est bien passé.
Ah bon ?
Bah oui.
Ouais, mais il est parti vite, Fonseca, quand même, non ?
Bah il y a Milan qui l'a appelé.
Ah, c'est juste Milan.
Il est parti vite, il a fait 3 ans. Bon, très bien. Allez, merci.
En tout cas, bon courage, Bruno.
Je vous rassure, parce que je sais que vous étiez très inquiet. Griezmann et Giroud vont mieux. Ils ont fini l'entraînement avec même une séance de frappe. Donc c'est que ça va.
Bah c'est que les chevilles vont bien.
Et puis alors bon, évidemment, vous avez compris, on n'a pas parlé de l'engagement des footballeurs sur la politique. On le fera demain. Vous
n'allez pas vous échapper. Ça tient à cœur.
Vous n'allez pas vous échapper là-dessus.
Ça tient à cœur.
Ah oui, ça me tient à cœur.
C'est vrai. Parce que début de semaine, tu me le dis.
Passer de Zidane et Marcel Desailly, capitaine des Bleus en 2002, qui font barrage au Front National, aux réponses qu'on a eues aujourd'hui sur le sujet.
C'est vrai.
Je trouve que ça mérite d'en parler.
C'est un signe fort.
On le fera demain, tranquillement. Et dans une seconde, c'est le quiz.
Ah oui.
La fessée. Allez, Louisa, on va le tordre celui-là.
sauf sur Louisa, mais sur Duga, la fessée.
Allez, mais arrête qu'il est fessée, on va te tordre avec Louisa. Ouais.
Allez,
vas-y,
à tout de suite.
Envoie la sauce.
Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024. RMC, jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
19h44 sur RMC, on est là, on est bien fini l'émission de Rotten sans flamme, comme tous les jours, avec le quiz de Julien Cazard, avec Jean-Louis Tour, qui sera mon joker, et une équipe qui n'en a pas gagné une encore. Hein, Louisa Nessib et Christophe Dugarry, ils vont essayer. Ils vont essayer d'en gagner une.
On est vaincu, tu plaisantes ou quoi?
Et deux auditeurs. Écoute, invaincu. Ouais. De toute façon, déjà, il faut décrypter les questions de Julien Cazard. Hein. C'est pas facile.
Il arrive dans une seconde. Ouais. Juste, puis je suis toujours sur mon entraînement des Bleus, là, le premier en Allemagne.
Oui.
Sachez que Théo Hernandez a été ménagé, donc. Il a bien écourté son entraînement, mais c'était prévu. Il avait pris un coup contre le Canada. Là, il a été ménagé. Il devrait s'entraîner demain, selon nos envoyés spéciaux. Voilà. Et c'est puis, alors, autre info qu'on nous envoie.
Oui, Jean-Louis.
Il va falloir surveiller le ballon de la compétition. Qui visiblement est assez lourd pour un ballon de foot.
Ça on appelle Lionel Charbonnier parce qu'il a bossé dans les ballons.
Et Jean-Michel Larquet,
ils n'étaient pas d'accord sur le poids des ballons. Donc
ils se sont embrouillés pendant 10 ans à cause d'une histoire de ballon. C'est vrai en plus.
Et depuis, Jean-Michel, il ne peut pas se le voir, Lionel.
Non, je
plaisante.
Mais bon, bref, voilà, ça, on va enquêter là-dessus grâce à Nicolas Pelletier, notre envoyé spécial. Mais là, tout de suite, on s'affronte.
Rotten contre le reste du monde, saison 3. Jérôme, il faut que tu finisses
oui.
en beauté.
Bah oui,
c'est
mais
que j'ai gagné hier.
Ouais, j'ai gagné, je suis invaincu cette
semaine. On est sûr de ça ? On est vraiment sûr de ça ?
Ah oui, je suis à deux victoires.
Hier ?
Ouais, oui, je suis à deux victoires. Et prends pas cet air.
Oui, c'est vrai, il a gagné.
J'ai gagné,
Jean. C'est
ah bon
pas dit. Ouais,
oui,
ouais.
Si.
Merci. On a mal travaillé, alors.
On a mal bossé.
Donc, il y a une enceinte portable de la marque Lexon, l'enceinte Minotée à gagner. Ce sera soit pour Emmanuel, soit pour Ludovic. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir les gars.
Bonsoir.
Salut messieurs.
Ludovic, comme tu es supporter de Lille, et donc ton président c'est Olivier Létang, t'as le droit de choisir entre Jérôme et le reste du monde.
On va prendre Jérôme, s'il vous plaît.
Allez,
et voilà, voilà un Lillois qui aime bien
Jérôme. Est-ce qu'il va la porter, la flamme, au final, Olivier
Létang? Bah oui, à Ludovic, non, mais non. Olivier Létang.
Oui. Ils ont de rien, les mecs, c'est magnifique.
Ah, merci. Ah bah, tu vas dans le sens de Jérôme.
Ah non, moi j'adore. Moi, les jours, ça me fait chier. Par contre, je veux bien porter la flamme pour qu'on va ma tronche.
Oui, bah bien sûr.
Question flash.
C'est le midi.
Dans vos cas où tu sais.
Non, mais c'est pour les valeurs de l'Olympisme.
Oui, oui, franchement, si on l'avait pas vu lui. Franchement, on aurait été mal. Moi, je regardais pas les JO s'il n'y a pas Olivier Létang.
Ah ouais, s'il porte pas la flamme.
Ça, en plus, des Castera
et Jul.
Il va la porter avec Danny Boone.
Sérieux? Normalement, Danny Boone sera le dernier porteur, parce que c'était Jul à Marseille.
Ah oui, c'est que des grands sportifs, du coup. C'est vraiment officiel. C'est vraiment, ce pays va de mieux en mieux. Question flash.
Non, c'est Lynn Renault, là. Le non, gars. Mais là, ouais, non, là, c'était une blague, on ne sait pas.
Hein. On ne sait pas.
On imagine.
Qu'est-ce qu'il y a de plus choquant? C'est pas trop. Question flash. Qui est le directeur du comité d'organisation de l'Euro 2024?
Philippe Lam.
Oh, bonne réponse Louisa. De Louisa.
Bravo Louisa.
Escalette.
Ouais,
t'as dit Jean-Pierre Escalette.
Jean-Pierre Escalette.
Pourquoi j'ai dit Escalette?
Qu'est-ce qui t'arrive?
Comment il s'appelle celui qui faisait de l'aviron là?
Estanguet.
À l'Euro 2024, ouais, bah, il fait tout lui. Lui,
il a confondu Escalette avec Estanguet.
Le JO. Je crois qu'il est prévu. Alors, si jamais il est prévu comme Premier ministre, normalement, en intérim.
Il faisait du kayak, il faisait pas de l'aviron.
Oui, oh, du 200 barreurs, du 300 masseurs, on s'en fout. Allez.
C'est vrai, en plus.
Qui
c'est important d'être.
Quel joueur? Là, franchement, là, on est en train de perdre du monde. Donc, le peu qui reste, on va essayer de les garder.
Saluons quand même que Louisa a une bonne réponse, parce que c'était pas du foot féminin aussi.
Il n'y a pas plus sexiste que cette. Et le mec, il me dit que je suis sexiste derrière. Bravo, non, Louisa, qui a trouvé une réponse. Bravo, Louisa, c'est bien pour une fille.
Mais non,
c'est
très bien. Je note que c'est pas sur le foot féminin qu'elle trouve.
Et pourquoi elle devrait. Elle regarde pas le foot féminin, patate.
C'est vrai que je dis ça.
Quel joueur de l'Euro 92. Ouais, patate, je vais un peu fort quand même. C'est ce que je dis à mon fils en plus. Quel joueur de l'Euro 92 est important pour les boxeurs?
Joueur français.
De l'Euro 92.
Uppercut.
Uppercut, Bernard Uppercut, fameux joueur de l'équipe de France de 92.
C'est un joueur de l'équipe de France?
C'est un milieu de terrain de l'équipe de France.
Durand.
D'accord.
Durand.
Franchement, il y a un
problème. Rémi Garde.
Oui. Je vous dis, il y avait une équipe.
2-0 pour l'instant.
Attention, danger en milieu de terrain. C'était Joga Bonito.
Et du caractère.
Ah oui, ça. Quel joueur de l'Euro 92 aurait fait un duo de rock anglais dans les années 80 s'il avait joué avec son frère? Quel joueur français de l'Euro 92 aurait fait un duo de rock anglais dans les années 80 s'il avait joué avec son frère?
Oasis.
Dans les années 80, Oasis était quand même encore
rock,
jeune.
Rock anglais.
Un groupe de rock. Tu doubles le nom, un nom et d'un joueur de.
Ah oui, bah oui, vous l'avez dit en plus.
Vous l'avez dit.
Talk to talk. Non, c'est pas
talk
ça.
Talk to talk, non. C'est. Il y avait. Alors, regardez des milieux de terrain.
Durand.
Ah, Durand. Ah oui.
De Jérôme Rotet. Et on est encore sur du Joga Bonito, et ce n'est pas fini.
C'est que l'Euro 92?
Non.
Ah, ok.
Que ça t'emmerde, tu
non,
me dis.
Non, il y avait une thématique.
Il y a une thématique plus ou moins générale. Oh. Et ben, question, c'est abusé.
Oh, mais moi, c'est abusé, gros!
Focus. Pose le téléphone.
On est sur l'Euro 2004.
Focus, ouais.
Plus belle. On sait que la Grèce a joué contre la République tchèque pour aller en finale.
Non. Contre le Portugal. Non, pour aller en finale.
Ah, pour aller en finale. Oui. Mais le Portugal, ils ont battu qui la en demi-finale?
Les Anglais.
Non. Qu'est-ce que tu viens de dire?
Les Anglais.
Pas du tout.
Mais non. L'Italie.
L'Espagne, l'Italie.
Non.
Suisse.
Croatie.
Non.
Les Pays-Bas.
Les Pays-Bas, Louisa.
Bravo,
et
Louisa.
Oui, deuxième bonne réponse.
C'est un carnage.
Je suis con.
3-1. Franchement, Jean-Louis, on félicite Louisa.
On fait une vérité dans cette émission.
Bah, encore une fois, je suis pas sûr du foot féminin.
Bravo, Louisa. Qui est cultivé? Quel ancien international allemand était chanteuse de R&B dans les années 2000?
Quel ancien international?
Champion du monde.
Klinsmann,
la chanteuse de R&B, Klinsmann, qu'on connaît bien.
L'âme,
bonne réponse,
oui. L'âme.
Eh oui, c'est la,
une chanteuse. L'âme, c'est une chanteuse de R&B.
C'est oui. Pas R&B.
Ouais. L'âme, elle faisait pas du R&B, l'âme. Pardon.
Pas vraiment du R&B.
Alors parce que là, attention, c'est quoi les quoi, on est sur Planète Rap, on est sur quoi là?
C'est pas
quoi
l'émission.
Louisa, tu sais, c'est petit.
Allez, vas-y,
enchaîne,
c'est bon. Te noie pas, va, c'est bon.
Non mais c'est du R&B, l'âme.
Ouais.
Enfin, c'est français, forcément.
Bien sûr.
Question double.
Attends, bon à R&B.
On va vous parler foot.
Parce que sur Wikipédia, ils disent de R&B.
Merci. C'est bon. Quand même, non, mais les autres, tous les... si, c'est devenu les spécialistes de la musique
pop et de R&B.
Question double. Donnez-moi un des meilleurs buteurs de l'Euro 92.
L'Euro 92
Laudrup.
Pas du tout.
Griezmann.
Van Basten. Laudrup.
Gascogne, Beckham.
Mais non, 92.
J'en sais rien, je balance tout. Bergkamp.
Bien joué, du gars. On bloque. Et donne-moi un deuxième. Je peux t'aider. Il y en avait deux qui étaient scandinaves.
Larsen,
bonne réponse.
5-2.
Ah oui, très fort. Surtout, c'est même pas Pierre, c'est Edric Larsen, le mec qui
mais personne ne voit.
Il y avait Thomas Brolin aussi, vous vous rappelez de Thomas Brolin.
Voilà, c'est lui.
Carlisle Riddle.
Ouais.
À l'époque, c'était de l'Allemagne.
5-2.
Qui que c'est-il donc ?
Un joker.
Ah. Question à 2 points. Allez, joker.
Il a un joker. Contre-joker. Il joue pour les autres. Pour le reste,
c'est vrai, c'est que Quentin fait l'innocent, alors qu'on sait très bien que c'est lui qui a choisi.
Réponds pas.
Mon premier se mange à l'apéro. Mon deuxième peut être marin ou de la campagne. Mon troisième est une boisson alcoolisée de stade en Allemagne. Mon quatrième n'est pas on. Et mon tout a été champion d'Europe avec la Mannschaft. Biroff. Oliver Biroff. Bonne réponse de Jérôme Rock.
Des 2 points.
Oui, une question à 2 points.
5-4.
Pour
le reste du monde.
Ah, qui est l'intrus? Entre ces 5 champions d'Europe 96, quel est l'intrus à cette période-là? Biroff, Klinsmann, Moller, Scholl, Babel. Lors de l'Euro 96, il y a un intrus parmi ces joueurs.
Biroff.
Pourquoi?
Parce qu'il joue en Italie.
Oh wow. Ah oui.
Wow.
Bravo. À la chapeau.
Waouh.
Wow. Ouais, c'est le 5 qui joue pas en Allemagne. Ouais. Il y avait que 2 joueurs de la Mannschaft qui ne jouaient pas.
Quel match?
En Allemagne.
Peut-être balle de match.
On s'en fout, allez, avance.
Oh là là, on se calme. Question du gars, il m'a gonflé.
Sur la balle de match?
Ah non, pas sur la balle de match.
Oh, du gars, qu'est-ce que tu caches dans ton cerveau? What do you hide into your brain? Oh, bro.
Du gars, tu n'as droit à qu'une seule réponse.
Oui, merci.
Quel est le nom de la Anne Hidalgo de Marrakech?
C'est-à-dire la mère de Marrakech.
Ben oui,
la mère de Marrakech.
Pas la folle, pas la sorcière.
Hein. Vas-y, c'est qui?
Mansouri, elle s'appelle. Je sais pas son prénom, mais elle s'appelle Mansouri.
Fatima Zahra Mansouri. Bonne réponse.
D'ailleurs, on l'embrasse très fort.
On l'embrasse très fort. Ouais, et merci pour le permis de construire.
Ça peut servir.
Parce que péter un site historique pour mettre une piscine à débordement, c'était pas gagné.
C'était pas gagné.
Allez, 5. Allez, donc on finit.
Dernière question.
Question à 2 points.
Ok.
Balle de match.
C'est donc une balle de match.
C'est donc forcément une balle de match. Donc c'est une question larguée.
Salut, c'est Jean-Michel Larquet sur RMC.
Oh, c'est moi le dinosaure.
Je prends un joker.
Il prend un joker.
Ouah, il a un deuxième joker.
Et le joker, c'est Daniel Riolo.
Impossible, il torture un communiste dans sa cave.
Bon, ben alors c'est Jean-Louis qui va faire Daniel.
Oh. Ah oui, ça va Daniel? Voilà, très bien.
Question Larquet. L'Allemagne a gagné l'Euro 80. Mais face à qui en finale?
L'Italie.
URSS, ouais.
Tchécoslovaquie.
Tchèque.
Pologne. RDA. Italie. Yougoslavie.
Italie, Espagne.
Ils n'ont pas fait souvent des finales. Hein. Belgique. Bonne réponse de Jérôme Rotten.
Et Jérôme qui va peut-être aller chercher un grand chelem demain. Bravo Ludovic qui remporte l'enceinte.
Lexon, marque française d'objets design et connectés, vous offre le cadeau idéal pour tous les amateurs de déco et de design. Découvrez les coffrets et objets dans les grands magasins et sur lexon-design.com.
Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.